Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, sur vos roues j'ai perdu mes dents, sur vos roues j'ai vu la fête, le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins, le vent, j'ai dessiné en mille facettes, interrogez les rues d'un gars sans oublier de Lafayette, ils vous diront il faut avoir un grain, c'est les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite, je n'ai jamais dit que j'étais saint, je conduisais une camionnette, sincèrement j'ignorais le tas, cela peut arriver aux prophètes, Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, au moins cassez les lunettes, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, avant que je perds la tête. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve, je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve, prévu de me tuer du futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Et moi je jouais le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. Moi interdit le territoire, j'ai fait appel à Marche ou Crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi qui a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes du Toutry-Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musée, le rachat de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, j'entends d'Hitler. Mon père, il a défendu la source et les artères. Dans les demi de son fils numéro 1. Mais j'excuse les lésés si j'ai plus de freins. Si je laisse le moisi à Dieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve, je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve, prévu de me tuer futur, l'angoisse pour de la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge, tu juges, ceux qui m'ont jugé, tel qu'un maghrébin. J'étais blessé chez mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour, j'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, Serge des gamins? Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie des câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés, j'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'un âne m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui c'est vrai qu'un âne avec ses talons j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement on profite de sa confiance mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve, je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve, prévu de me tuer du futur, l'angoisse vous de la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve, je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve, prévu de me tuer du futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage.
Bonjour chers auditeurs, vous êtes dans l'émission Pas de quartier du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire 89.4 FM en région parisienne et sur le net pour le reste du monde. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir un ami, un invité spécial, Thierry Gadeau. Thierry, bonjour.
Bonjour Mariama, merci.
Ah, oui Thierry, je t'avais reçu le 28 juin dernier. De l'année dernière, avec ton confrère Marc Lémé, pour parler de la Guadeloupe et de son manque d'eau. Vous aviez sorti un livre qui s'appelle « Guadeloupe, l'île sans eau » aux éditions Massot. Et nous allons faire le point sur ce qui se passe en Guadeloupe. Parce que vous aviez fait un constat terrible sur la Guadeloupe, et depuis, il s'est aggravé, si j'ose dire.
Oui, tout à fait. Alors, pour rappeler les choses, avec Marc Lémé, donc on avait travaillé à partir des travaux de la commission d'enquête sur l'eau de l'Assemblée nationale qui s'était déroulée en juin 2020 et qui avait consacré une semaine d'études à la situation à la Guadeloupe. Et donc, il y avait un chapitre important dans le rapport consacré à la situation dans l'île. Et donc, à l'époque, quand le livre est sorti, on estimait qu'environ un quart de la population, donc environ 100 000 personnes en Guadeloupe, n'avaient pas un accès normal à l'eau, c'est-à-dire un accès quotidien et pour certains, d'ailleurs, les coupures d'eau pouvaient durer des jours, voire des semaines. Et on racontait aussi comment cette situation avait été créée en remontant dans le temps, en remontant dans la construction et la gestion des réseaux d'eau pour essayer de déterminer les responsabilités. Et puis, effectivement, il y avait une autre partie aussi extrêmement importante sur l'effondrement de l'assainissement, puisque l'assainissement, les réseaux d'assainissement et les stations d'épuration sont dans un état aussi pitoyable que le réseau d'eau potable, et que ce qui entraînait une pollution massive des cours d'eau et des bords de plage, au point que l'autorité régionale de santé avait prévenu durant la commission d'enquête que sous 10 ans, c'est-à-dire à la fin de la décennie, si rien n'était fait, il ne serait plus question de se baigner en Guadeloupe, ni dans les rivières, ni en bord de mer. Donc, c'est quand même une situation, pour une île, c'est quand même une situation extrêmement grave. Donc, ça, c'est le point de départ de la situation telle qu'on le raconte dans le livre qui a été publié par Florent Massot en juin, début juillet de l'année dernière. Et puis, depuis, je suis allé deux fois en Guadeloupe. La première, au mois de septembre, pour présenter le livre sur place. Et ça, j'ai été super bien accueilli, je dois dire que...
Un succès de librairie.
Et un succès de librairie sur place, tout à fait. Et surtout, je pense que nos concitoyens guadeloupéens ont apprécié qu'un journaliste, même si c'est un métropolitain, un blanc, enquête sur cette question-là et dévoile un certain nombre de scandales. Voilà, je regarde un souvenir extrêmement ému et encore un peu bouleversé par l'accueil qui m'a été réservé. Et puis, je suis retourné en Guadeloupe cette fois pour faire de l'enquête, du reportage, en partie financé par Blast, par le site d'information Blast avec lequel je collabore. Au mois de mai, et ce que j'ai découvert au mois de mai, c'est une situation qui est pire que ce qu'on racontait dans le livre. Et donc, aujourd'hui, c'est quand on dit un quart de la situation, un quart de la population n'a pas accès à l'eau. En fait, c'est faux. Ce chiffre est faux. Aujourd'hui, c'est plutôt en dehors de quelques villes qui sont sur la côte nord-ouest de Basse-Terre, et peut-être aussi quelques quartiers dans le nord de Grande-Terre. C'est quasiment toute l'île qui est privée d'un accès normal à l'eau. Et donc c'est quasiment toute la population. Et puis évidemment les impacts, puisque l'assainissement suit aussi la dégradation de l'assainissement, accompagne la dégradation des réseaux d'eau potable. Et donc aujourd'hui, quand il y a de l'eau au robinet, bien souvent elle est pas potable. Et l'autorité régionale de santé n'arrête pas de publier des alertes pour interdire la consommation d'eau dans tel ou tel quartier de Guadeloupe, ou pour multiplier les interdictions de baignade, notamment dans les plages, les belles plages de Guadeloupe, celles qui sont entre Gosier et Saint-François. Donc la situation s'est aggravée. Et cerise sur le gâteau, évidemment, le gouvernement non seulement n'en a rien à faire, mais nie en plus publiquement qu'il y ait un problème d'eau et d'assainissement en Guadeloupe. Carinco, qui s'occupe de l'outre-mer, a l'outrecuidance d'affirmer maintenant haut et fort que les problèmes sont résolus, contrairement à tout ce qui se passe et tout ce qui est manifeste.
Alors, la tempête Fiona a aggravé les problèmes des stations d'épuration. Il y en a 80% qui ne fonctionnent pas. Donc, il y a un rejet massif, comme tu le disais, de trucs. Mais surtout, tu expliques dans ton article, dans Blast, ton dernier article... crise de l'eau en Guadeloupe, l'ONU s'inquiète et tense la France. L'ONU s'en mêle de ce problème.
Oui. Alors, la tempête Fiona, les dégâts les plus importants, c'était moins sur les stations d'épuration et le système d'assainissement que sur, en fait, la production d'eau potable. Alors, pour faire rapide, parce que pour le coup, c'est un technicien, un ingénieur du syndicat de l'eau qui m'a expliqué la situation, c'est que alors la tempête Fiona, donc qui s'est déroulée, qui a frappé la Guadeloupe une semaine après mon départ de l'île, donc j'y suis pour rien, a eu un effet de destruction des berges de toutes les rivières. Donc les berges ont été mises à nu et donc maintenant, dès qu'il pleut un peu, bah, toute la terre se coule dans l'eau et vient boucher les prises d'eau des usines d'eau potable. Et les usines d'eau potable n'ont pas la capacité de traitement qui permet de limiter la turbidité de l'eau, en fait, de rendre l'eau limpide d'une part, et puis d'autre part, pour essayer justement de traiter ce problème de turbidité de l'eau, rajoutent des produits, et notamment l'alumine, mais elles n'ont pas et elles doivent tellement en rajouter que les capacités de filtration de l'eau sont insuffisantes pour éliminer toute l'alumine qu'il faudrait éliminer. Et donc, y a des taux de concentration dans l'eau potable d'alumine qui sont au-delà des normes, et donc c'est pour ça notamment que l'autorité de régulation de santé a interdit la consommation d'eau potable, sans parler évidemment du problème du chlordécone dans l'eau potable, qui est un problème récurrent et pour lequel il n'y a toujours pas de volonté de faire les travaux nécessaires pour régler ce problème. Donc ça c'est la tempête Fiona et ça explique pourquoi le système s'est dégradé depuis la tempête. Mais c'est vrai, la nouveauté, ce que j'ai appris lors de mon enquête sur place, c'est que l'ONU s'inquiète maintenant ouvertement de la situation de l'eau potable et de l'assainissement en Guadeloupe et plus généralement dans l'ensemble des territoires d'outre-mer français, pour une bonne et simple raison. C'est que depuis 2010, et grâce à l'ambassadeur bolivien de l'époque, l'eau fait partie des droits de l'homme. L'accès à l'eau et à l'assainissement, l'accès à l'eau potable et à l'assainissement fait partie des droits de l'homme. Et donc, en Guadeloupe, il y a une jeune femme qui s'appelle Sabrina Cajoli, il faut la citer parce que c'est elle qui a fait tout ce travail, qui est une ancienne juriste spécialisée dans la défense des droits de l'homme et qui a travaillé pour l'ONU et le Conseil de l'Europe. Elle a trouvé que la situation sur place était insupportable, que justement ça violait la charte des droits de l'homme des Nations Unies. Et donc, elle a commencé à constituer des dossiers pour aller devant des différents comités des Nations Unies et les sensibiliser à cette question. Et les premières décisions, les premières annonces de l'ONU sont tombées à la fin du printemps, dans lesquelles ils mettent en garde sérieusement la France. Il lui demande de faire des travaux d'urgence pour rétablir l'accès à l'eau potable. Et tout ce travail, alors on peut dire, bon, tout ça, oui, mais ça n'a pas force de loi, et si la France ne fait rien, bah, elle ne sera pas condamnée par l'ONU. Eh bien, on se trompe, parce que ça ouvre la voie à des recours en justice derrière, qui peuvent entraîner une condamnation de la France.
Et des réparations, donc.
Et donc, oui, évidemment, des réparations auprès des populations, mais c'est surtout que là, on commence à attaquer financièrement le portefeuille de la France. Donc, c'est le nôtre. Alors, évidemment, le pouvoir en place, il n'en a rien à faire. On le voit bien, il est condamné maintenant régulièrement par la justice française pour son inaction en matière de qualité de l'air et de transition énergétique environnementale. Il fait rien, il est condamné, il a des amendes à payer, il n'en a rien à faire. De toute façon, c'est notre argent. Donc voilà, quoi, il le gaspille. Mais c'est quand même hautement symbolique que l'organisation internationale comme l'ONU se saisisse de cette question et mette le gouvernement français et mette Emmanuel Macron en face de ses responsabilités. Et alors, ça ne règle pas le problème d'urgence pour rétablir l'eau et l'assainissement. Nous sommes, évidemment, la crise est toujours là, mais c'est quand même une étape, je pense, importante qui est en train de se jouer. Je sais qu'à la rentrée, il y aura d'autres comités de l'ONU qui vont examiner aussi ces questions-là, et on peut espérer que d'autres décisions, d'autres mises en garde, d'autres avertissements soient prononcés contre la France.
Alors, Thierry, quand on va sur le site de Blast, on se rend compte que tu es le journaliste qui travaille le plus sur la Guadeloupe. plus exactement sur les ultramarins. Donc il n'y a pas que la Guadeloupe qui a ce problème-là. Tu le dis bien, il y a Mayotte, il y a la Martinique. Mmh. Et donc, quelque part, la Guadeloupe, c'est le scandale le plus... Comment dire ?
C'est le scandale le plus visible aujourd'hui.
Voilà.
Voilà. Alors, après, il y a des situations... Alors, la Martinique, c'est... Alors, c'est, bon, c'est une enquête que je suis en train de préparer. Il y a aussi une situation... Alors, c'est un peu moins dégradé qu'en Guadeloupe, mais petit à petit, ils vont y arriver aussi. Il y a aussi des tours d'eau en Martinique. Il y a aussi une dégradation des systèmes d'assainissement. Il y a aussi des problèmes sur la distribution d'eau potable. Donc, voilà. Donc... Et donc on est dans un système assez proche de celui de la Guadeloupe, sauf que bon, en Guadeloupe, jusqu'au début des années 2010, c'était Veolia Général des Eaux qui était le grand opérateur privé local, et en Martinique, c'est Suez, c'est Suez, donc le groupe Engie, qui est en partie public, puisque Engie, c'est la fusion de Suez avec GDF, et que l'État est toujours actionnaire de ce groupe. Après, quand on prend les deux autres cas dans les territoires ultramarins où il y a des problèmes d'eau, c'est-à-dire en Guyane et à Mayotte, c'est des problèmes différents. Non, la Guyane, on le sait, quel est le problème principal ? C'est la pollution au mercure,
oui,
des cours d'eau et des terres liées à l'orpaillage illégal,
voilà,
contre lequel on ne peut pas dire que la France ne fait rien. Mais c'est vrai que c'est un combat de tous les instants. Et est-ce qu'on met tous les moyens nécessaires ? Et est-ce qu'on donne tous les moyens nécessaires la gendarmerie ou aux militaires sur place pour essayer de combattre ce fléau, je suis pas sûr. Puis par ailleurs, on voudrait bien continuer à donner des permis miniers à des sociétés qui voudraient trouver de l'or aussi là-bas. Donc, on montre pas le bon exemple et on est aussi prêt à saccager nous-mêmes l'environnement des Guyanais. Donc, mais le problème principal est celui-là, sur la pollution au mercure. À Mayotte, c'est un tout autre problème. À Mayotte, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème d'eau potable. Alors, pour l'assainissement, je connais moins la situation. J'imagine qu'avec tous les bidonvilles qu'il y avait, il y avait d'énormes problèmes d'assainissement, évidemment. Mais pour l'eau potable, il ne devrait pas y avoir de problème. On sait qu'il faut construire... C'est depuis 10 ans hein, que la question se pose, compte tenu de l'explosion démographique de l'île. Donc depuis 10 ans, on sait, voire même plus, 15 ans, qu'il faut construire une nouvelle retenue collinaire pour que les pluies, la saison des pluies, soient stockées suffisamment pour pouvoir alimenter toute l'île pendant la saison sèche. Il y a un terrain sur lequel cette retenue collinaire doit être construite. Malheureusement, elle appartient à l'une des familles politiques les plus puissantes de l'île, qui refuse absolument de céder ce terrain. Et l'État français ne fait rien parce que pour l'expulser, parce que c'est quand même, je veux dire, cette retenue est essentielle à Mayotte. C'est de l'intérêt général. On expulse
des pauvres gens,
des gens. Alors, sans parler de Mayotte, mais pour construire une autoroute qui va continuer la dégradation de notre environnement et qui va participer au réchauffement climatique, là, il n'y a aucun problème pour expulser les propriétaires des terrains. On expulse des pauvres Comoriens qui essayent de survivre. Ça, il n'y a pas de problème non plus. Mais pour expulser le terrain d'une famille puissante politiquement dans l'île, ça par contre, il n'y a plus personne. Voilà quelle est la réalité du scandale de l'eau à Mayotte. C'est pas autre chose. Faut pas chercher ailleurs. C'est celui-là.
Et heureusement qu'on a Thierry pour le dénoncer. Sinon, alors je disais à Blast, quand on tape ton nom dans le moteur de recherche, et Guadeloupe, il y a 12... C'est un dossier, c'est carrément le dossier Guadeloupe. Il y a 12 articles pour l'instant, sachant qu'il va y en avoir d'autres que tu vas...
Évidemment.
Voilà. Et il y a tout. Aussi bien la corruption politique, que le scandale de l'eau, que le scandale de chlordécone.
Oui.
Tout y est. D'où te vient cette passion pour la Guadeloupe ? Est-ce que c'est parce que c'est... Sachant que le 14 juillet, bientôt, on va avoir un défilé... En honneur aux ultramarins. Oui, je le dis, parce que quand j'ai vu l'affiche, je me suis dit, qu'est-ce que ça cache encore, cette communication. Donc, est-ce que la Guadeloupe, ce n'est pas le symptôme de tout ce qui va mal chez les ultramarins, les territoires ultramarins?
Et au-delà, alors c'est le symptôme, le symbole de toutes les crises ultramarines, parce que toutes les crises qu'on peut avoir, ou les différentes crises qu'on peut avoir dans différents territoires ultramarins, on les retrouve toutes concentrées en Guadeloupe, c'est vrai. Mais aussi, c'est quelque part préfigure l'évolution, si on continue cette politique économique aberrante, l'évolution des territoires de France métropolitaine. En gros, c'est quoi le problème de la Guadeloupe? Le problème de la Guadeloupe, ça a été une administration centrale, alors préfectorale, donc déconcentrée en fait, ultra puissante, colonialiste, raciste.
Ça, c'est dit.
Qui a imposé. Oui, parce que c'est une réalité, il ne faut pas la nier. Enfin, quand on regarde notre histoire, on sait très bien que l'État français est un État colonialiste et raciste. Je veux dire, on ne devrait même pas en débattre de cette question.
Oui.
Ça peut rejoindre d'ailleurs l'édito que j'ai écrit ce matin sur l'affaire Nahel pour Blas. Mais bon, passons. Revenons à la Guadeloupe. Donc on a un comportement, on a maintenu en place une économie coloniale. Alors c'est marrant parce que quand j'étais sur place, j'ai discuté avec quelqu'un qui connaît parfaitement l'île pour y vivre depuis des décennies. Et qui me racontait qu'à un moment, il était un copain avec un ancien planteur, voilà, qui avait la maison de planteur, et puis ce que dans le temps on appelait la rue Casse-Nègre, c'est-à-dire dans les plantations historiques, il y avait la grande maison de maître, et puis en contrebas, il y avait les petites maisons des ouvriers qui travaillaient dans les plantations, avec le magasin général, qui, quand l'esclavage a pris fin il y a 150 ans, s'est mis à vendre. Et puis, il me disait, voilà, le gars s'est jamais caché que le salaire qu'il versait, en fait, il le récupérait par le loyer qu'il faisait payer à ses ouvriers et par ce magasin général qui leur vendait les biens de première nécessité et que c'est comme... En fait, l'esclavage n'a jamais pris fin. Et il me dit, ben, aujourd'hui, quand tu regardes la structure de l'île, ben, on est devenu une grande plantation. Voilà. Les béquets ont tout. Et ben, les pauvres Guadeloupéens, la pauvre paye qu'ils ont, ils la dépensent dans les magasins des béquets. Et quelque part, ce système esclavagiste a changé d'organisation, mais cette économie coloniale n'a pas changé de nature. Voilà. Et j'ai trouvé que c'est ça, et c'est pour ça que moi ça m'intéresse d'enquêter, parce que il y a tellement de scandales. On a une classe politique pour l'essentiel incompétente et pour une grande partie corrompue. Voilà. Clairement, on voit un président du conseil régional, alors il a le droit à la présomption d'innocence, évidemment, mais il est quand même traîné devant les tribunaux pour dépassement des frais de campagne pour la campagne régionale de 2015. Il y a aussi détournement de fonds. Il a une autre enquête du PNF sur le dos pour l'utilisation détournée quand il était député, de ses frais de mandat de député qui auraient servi à des financements en fait en sous-marin de ses campagnes municipales, puisqu'il était aussi le maire de Baie-Mahault. On a le président du conseil départemental qui a eu un rapport ahurissant de la Cour des comptes dénonçant des scandales majeurs dans la collectivité territoriale qu'il a dirigé pendant plusieurs années, qui était la communauté du Nord-Bastère, qui était communauté d'agglomération. Sur lesquels la justice locale refuse d'enquêter, alors même qu'il y a une évidence de prise illégale d'intérêt, voilà quoi, c'est juste scandaleux. Il y a un certain nombre de maires qui sont dans, eux aussi poursuivis en justice. Et généralement, tous ces gens-là appartiennent au même parti qui s'appelle Guadeloupe Unie Solidaire et GUSR, le R, c'est, je ne sais plus, responsable, je crois. Et bien, responsable de rien, quoi. Ils sont totalement incompétents, ils sont tous incompétents. C'est eux qui tiennent l'île aujourd'hui, c'est le principal parti de l'île. Ils tiennent le conseil régional, ils tiennent le conseil départemental, ils tiennent beaucoup de mairies. Ils ont été élus avec 20% des voix. Il ne faut pas faire croire qu'ils ont la population derrière eux. En même temps, les autres partis n'ont pas été capables de mobiliser non plus. Donc, ils ont aussi des questions à se poser. Mais voilà, donc on a un concentré de tout ça. Depuis maintenant, on peut dire, le quinquennat Sarkozy, l'État central, donc la préfecture et ses services, se sont totalement désengagés. Les infrastructures qui ont été construites, qui ont déjà été mal construites à l'époque et qui ont été très très mal entretenues, s'effondrent tous, que ça soit les routes, le transport, le ramassage des déchets, donc l'eau, l'assainissement, les établissements scolaires. Tout ça est en crise profonde et l'État ne veut pas bouger le petit doigt. Aujourd'hui, la seule discussion possible de l'État, entre l'État, la Guadeloupe et la Martinique, c'est une question sur le statut des îles et avec l'idée pour l'État de s'en débarrasser le plus vite possible. Voilà. Et donc, quelque part, l'État se comporte vis-à-vis de la Guadeloupe ou de la Martinique, mais comme beaucoup de territoires métropolitains. En dehors de Paris, qu'est-ce qui intéresse l'État français ? Je veux dire, la crise dans les zones périurbaines, la crise sociale dans les zones, dans les quartiers difficiles, comme on dit, difficiles, dans les banlieues, dans les zones périurbaines, dans les zones rurales. Qu'est-ce que l'État a comme réponse ? Quelle a été sa réponse après la crise des Gilets jaunes ? Ça a été de faire la réforme des retraites. Si c'est une réponse qui prend en compte le mal-être social en France, c'est du foutage de gueule. Donc, voilà, mais c'est vrai que quelque part, la Guadeloupe, c'est le concentré de toutes ces crises et c'est ce quoi se dirige l'ensemble du territoire français. On regarde la Guadeloupe, on sait ce qui nous attend.
Bon. Eh bien, c'est pas joyeux. Merci Thierry pour cette première partie. Nous allons faire une pause et nous allons revenir.
Ma pâte qu'à s'y poser, ma te kéri par les bas, ma te même oublié, sa ma te kéri riposhe, ou un seul coup d'y a pas moins craqué. Ma te kéri le résister, mais l'amour a te douce, mais nous pas te qu'à jouer. Si nous te prends temps pour nous te parler, connaissez-vous te cadencer? Si nous te prends temps pour nous te causer, connaissez-vous te cadencer? Si nous te prends temps pour nous expliquer, connaissez-vous te cadencer? Si nous t'es content pour nous te parler, collé serré, collé serré.
Où là tout près moins qu'à sourire, et ça garde moins envie. Qui tient de haut en bras moins pour nous périr commencer.
nous t'es pas tant pour nous t'es parlé. Olé, serré, nous t'es qu'est cadencé. Si nous t'es pas tant pour nous t'es causé.
Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, 89.4 FM en région parisienne et sur le net pour le reste du monde. Nous sommes dans la deuxième partie de l'émission sur la Guadeloupe, l'île sans eau, avec Thierry Gadeau. Alors Thierry,
oui.
Les gens se sont organisés et il y a une plainte qui circule qui compte 126 personnes. Est-ce que tu peux m'en parler ?
Tout à fait, bien sûr. On va recommencer avec, on va reprendre Sabrina Cajoli, donc oui. Cette juriste qui est retournée vivre en Guadeloupe en 2019 et qui donc a instruit les dossiers auprès de l'ONU pour obtenir la condamnation de la France sur ses manquements vis-à-vis de la charte des Nations Unies sur les droits de l'homme, et avec un autre petit groupe d'habitants en Guadeloupe, alors plutôt sur le côté sud, le côté est de Basse-Terre, vers Saint-François, Sainte-Anne, elle habite à Saint-François, donc c'est l'une des villes les plus touchées par les coupures d'eau et les problèmes d'assainissement. Elle a réussi à monter un dossier pour porter plainte en Guadeloupe, pour mise en danger, notamment mise en danger de la vie d'autrui, en raison justement de ces problèmes de non-potabilité de l'eau quand il y a de l'eau au robinet, puisque la plupart du temps, il n'y a pas d'eau au robinet. Mais quand elle arrive au robinet, bien souvent, elle est non-potable, et l'information n'est pas immédiatement disponible qu'elle est non-potable aussi. Il faut 2-3 jours, voire 4 jours, à l'autorité régionale de santé pour avoir le retour des analyses et alerter la population. Donc, ils peuvent boire ou consommer une eau donc non potable pendant ce délai-là. Donc, ils sont partis à 5. Ils ont été soutenus par une association citoyenne qui est elle aussi basée sur Saint-François et Sainte-Anne, qui s'appelle Balance ton SIAG. Alors, le SIAG, c'est l'ancien nom du syndicat de l'eau qui s'appelle maintenant le SMGEAG, le syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe, qui est maintenant regroupe, c'est le syndicat unique de l'eau et de l'assainissement en Guadeloupe, sur les deux parties de l'île. Ils ont constitué ce petit comité de citoyens à 5, et ils ont porté plainte, ils sont défendus par un grand avocat parisien, Emmanuel Daoud, qui agit pro bono, c'est-à-dire gratuitement, ce qui est quand même de la part d'un cabinet d'avocats parisiens, c'est quand même un effort qu'il faut saluer, il faut le remercier de travailler gratuitement pour défendre la population, un bien commun et la population locale. Et donc au départ, il y a eu, si je me souviens bien, une trentaine de personnes ou une cinquantaine de personnes qui ont porté plainte collectivement. Et puis c'est monté. Moi, quand j'y étais, donc au mois de mai, ils avaient jusqu'à 129 plaintes au total sous le coude qui au fur et à mesure étaient déposées auprès du procureur. Et puis je crois qu'aujourd'hui ils sont à plus de 200 personnes qui ont porté plainte. Donc c'est un mouvement de fond qui symbolise aussi, qui montre que la population n'est pas inactive, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire parfois. Au contraire, elle prend en main et elle a décidé de se battre et de se battre devant les tribunaux pour faire condamner l'État. Parce que même si la gestion des réseaux d'eau et d'assainissement est une responsabilité des collectivités territoriales, donc les mairies, les communautés d'agglomération, etc., c'est la première responsabilité est quand même celle de l'État. Et l'État, notamment, engage sa responsabilité sur la qualité de l'eau. Et donc, en ne faisant pas respecter l'accès à l'eau, l'accès à l'assainissement et une eau potable, l'État est en faute. Donc, cette plainte est essentielle. Alors bon, moi, j'ai des retours sur place très négatifs. Il y a un pôle procureur de Guadeloupe, il y a un parquet spécialisé dans les affaires d'environnement et de santé. J'ai un retour très défavorable sur le travail de ce parquet spécialisé qui cache plutôt et qui enterre plutôt les plaintes qu'autre chose. Mais là, il y a 200 personnes, ils vont pas pouvoir ne rien faire. Mais tant qu'un juge d'instruction ne sera pas nommé avec tous les moyens d'enquête nécessaires, ça n'avancera pas. Alors moi je l'ai pas encore raconté ça, mais dans l'île, il y a l'OFB. L'OFB, c'est l'Office français de biodiversité, dont l'une des missions est de faire la police de l'eau. Et c'est un auxiliaire de justice. C'est-à-dire que quand il y a des pollutions, ils viennent faire des prélèvements qui sont versés, et les analyses, les résultats ne sont pas rendus publics parce qu'ils rentrent dans une procédure judiciaire. Mmh. Aucune enquête aujourd'hui a débouché à partir de leurs analyses.
Et d'accord.
Ça fait un certain temps. Ils ne font que ça. J'ai rencontré le responsable local de l'OFB parce que j'arrivais pas à comprendre. Moi, je voulais les voir pour autre chose. Parce que l'OFB, c'est aussi des études sur l'environnement et sur la protection de l'environnement, des milieux marins, etc. Donc, ils ont une double casquette, à la fois de police de l'eau, auxiliaire de justice et une action scientifique normalement. Bon, j'arrivais pas à comprendre pourquoi personne voulait me rencontrer pour parler de l'impact sur l'environnement local de toutes les pollutions, chlordécone, mais aussi agrochimique et aussi l'effondrement de l'assainissement.
S'ils ont lu qu'un seul de ces articles, tu comprends qu'ils te fuient.
Non, pas du tout, parce que généralement, ce sont des gens qui parlent facilement à la presse quand on vient les voir pour les interroger. Donc j'arrivais pas à comprendre. Et donc je suis allé les voir et le responsable m'a reçu en me disant « Mais je fais pas ça, moi. » Je lui ai dit « Mais... » Pourtant, c'est la mission de l'OFB, c'est aussi celle-là, de faire des études, des analyses sur l'environnement. Il fait « Oui, mais pas ici. » Nous, notre rôle, c'est juste, auxiliaire de justice, aller faire des prélèvements et les fournir à la justice, et pour lesquels je ne vous dirai rien. Ça, je comprends, le secret de l'instruction, vous y êtes attaché, vous êtes soumis au secret de l'instruction, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Mais à qui je m'adresse alors pour avoir des études sur l'environnement et l'impact des pollutions sur l'environnement? Il m'a regardé en se marrant en disant « pas à nous ». Alors que c'est leur rôle quand même, c'est le rôle de l'OFP, mais comme d'autres. Et en fait, personne aujourd'hui ne fait d'études réelles sur l'impact des pollutions. Alors, il peut y avoir des études faites à partir de métropoles, mais sur personne. Mmh. Alors que voilà, on a le dégât des sargasses, on a le chlordécone, les autres pollutions agrochimiques, puisqu'ils utilisent aussi du glyphosate, qui réactive par ailleurs le chlordécone. Donc il y a eu un rapport au printemps qui est sorti sur les pollutions agrochimiques en France, avec un point particulier sur les Antilles, sur notamment la Guadeloupe. Mais sur place, il n'y a pas d'équipe scientifique qui mène ses propres études. C'est juste aberrant. Ils sont soumis, ils sont en première ligne du changement climatique et ça n'intéresse personne. J'ai posé la question à l'ONF en rentrant, en me disant bah, peut-être l'ONF, comme il y a aussi l'ONF en Guadeloupe. Je n'ai pas pensé à aller les voir sur place. J'étais
l'Office
occupé.
National des Forêts.
L'Office National des Forêts. Ils ne m'ont toujours pas répondu à ma question. À qui je m'adresse sur les questions d'environnement, de l'état de santé des milieux humides, de la forêt guadeloupéenne, à qui je peux m'adresser? Ils m'ont toujours pas répondu. On est maintenant plus d'un mois après que je leur ai, enfin un mois après que je leur ai posé la question. Donc c'est que s'ils m'ont pas répondu, alors que d'habitude ils me répondent toujours très rapidement, c'est que eux-mêmes ne savent pas s'ils ont quelqu'un. Donc ils ont personne.
Bien.
Voilà. Et donc, c'est pour ça que cette plainte montée par ce petit groupe, rejoint par 200 personnes maintenant, est extrêmement importante, parce que ça va mettre le focus, la lumière, sur la dégradation de l'environnement, sur les risques sanitaires encourus par la population locale, et pas seulement par ces 200 personnes, et sur la responsabilité première de l'État français. Donc, voilà. Donc, si des Guadeloupéens nous entendent ou entendent parler de l'émission, j'espère que s'ils ne sont pas encore au courant de l'existence de cette plainte, ils regarderont. On peut retrouver facilement sur la page Facebook de Balance ton SIAG toutes les informations, tous les contacts utiles. Et c'est vraiment une initiative extrêmement intéressante.
Bon. Alors, sinon, les rapports dans ton article, quand j'ai lu ce passage, j'étais hallucinée. Quand il y a des rapports qui sont écrits à l'attention du ministre, ils ne sont pas transmis tels quels au ministre. Ils sont réécrits et ensuite réécrits. Explique-nous ça aussi.
Oui, parce que c'est l'une des questions que je me pose depuis maintenant un moment. Il y a eu un certain nombre de rapports qui fait par l'Inspection Générale de l'Agriculture et d'autres, qui établissent le constat sur l'effondrement du réseau d'eau et d'assainissement depuis 10 ans. Donc le constat est posé sur la table. On sait exactement ce qu'il faudrait faire. Il faut remettre, c'est un plan Marshall à 3 milliards d'euros pour remettre en état l'eau et l'assainissement en Guadeloupe. Donc les investissements de 50 millions par an, c'est bidon. Ça n'existe pas. C'est pas ça qui va régler le problème, contrairement à ce que fait croire le ministre Carenco. Mais c'est vrai que dans l'expression publique, ça a été Macron en 2018, ou 2019, je ne sais plus, quand il a fait son voyage dans les Antilles, Carenco ou d'autres, ou même la représentante du ministère des Outre-mer, quand elle a été interrogée par un comité de l'ONU sur la situation, la crise de l'eau et de l'assainissement en Guadeloupe, elle a répondu qu'il n'y avait pas de crise, qu'il n'y avait pas de problème. Et donc, cette négation de la réalité, ce déni de réalité, je voulais comprendre d'où il venait. Donc, je me suis adressé à un haut fonctionnaire parisien. Je ne peux pas dire qui, parce que bon, le mec est en poste, donc je ne vais pas lui créer des... Je vais dire, mais je ne comprends pas... Sur place, les représentants de la préfecture sont parfaitement au courant de la situation. Donc, les rapports qu'ils envoient au ministère et au ministre, pourquoi ils ne sont pas lus? Et il me regarde, il explose de rire. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Quand, par exemple, les responsables de la DEAL, qui est la direction de la préfecture qui s'occupe de tous les problèmes d'environnement, fait un rapport sur la situation de l'eau et de l'assainissement dans l'île, ils font un rapport... Ils le mettent d'équerre. Déjà, ils ne disent pas que c'est la crise absolue et que l'île est en train de couler, évidemment. Mais ils décrivent, aussi bien qu'ils le peuvent dans les termes convenables, la crise qui existe. Et ils ne l'envoient pas à Paris. Ils le remettent au préfet.
Qui ?
Et donc, le préfet va lire le rapport, va se dire... c'est peut-être pas le bon moment pour l'envoyer à Paris. Et donc, soit Paris, à un moment ou un autre, va dire, mais j'arrête pas d'entendre parler, l'eau, l'assainissement en Guadeloupe, qu'est-ce qui se passe encore? À ce moment-là, il va ressortir le rapport, ou il va se dire, à un moment, arrivé au bout d'un moment, parce que ses services commencent à grogner un peu fort, bon, bah, j'envoie le rapport à Paris. Donc, le rapport, il arrive à la direction de l'Outre-mer, et au service qui s'occupe de l'eau, du plan d'homme.
D'accord.
Et qui va dire, non, mais non, on ne peut pas envoyer un tel rapport au cabinet du ministre. Il faut le réécrire. Il faut le rendre présentable. Et donc, ce n'est pas qu'ils réécrivent le rapport, ils écrivent un nouveau rapport. Alors, ils reprennent quelques chiffres. Mais déjà, ils transforment la réalité. Et, évidemment, le rapport, ils le font remonter. Mais ils le feront monter à qui? Pas au ministre. Au conseiller du ministre qui s'occupe de ces questions-là. Et là, le gars, il dit, non, mais ça va pas la tête, les gars, vous avez vu le torchon que vous m'avez envoyé. Et le gars écrit un nouveau rapport. Donc, c'est un peu l'histoire du téléphone arabe.
Oui.
Tu commences avec une information, c'est que Isabelle aime Paul, et ça devient Michel est parti en Tunisie. Et tu sais pas comment ça a été changé. Ben, c'est exactement la même histoire. Voilà. Le rapport qui est lu par le ministre n'a rien à voir avec la situation telle qu'a été écrite dans le rapport initial. Ça paraît kafkaïen, ça paraît ubuesque, mais c'est comme cela que ce haut fonctionnaire parisien m'a expliqué la situation. Et il me dit, si les gens sur place n'ont pas des contacts directs dans les cabinets ministériels, jamais leurs informations ne peuvent remonter. Jamais. Voilà. Et donc, voilà, c'est la raison pour laquelle il y a ce déni de réalité. Et je lui ai dit, mais il y a pourtant les articles de presse et tout ça. Mais ils ne lisent pas la presse. Ils n'en ont rien à faire, de la presse.
Oh bah, la presse, pas la presse indépendante déjà. La presse dont ils ont affaire, elle est possédée par 10 oligarques qui en possèdent 90% et qui concentrent les aides, c'est-à-dire notre argent qui est donné pour cette presse-là.
Oui, mais regarde, le Monde a aussi écrit des papiers. Alors, je ne sais pas, je ne lis pas le Figaro, mais j'imagine que le Figaro a dû écrire un ou deux papiers. Quelle que soit la qualité assez pauvre de ces papiers qui ont été faits, notamment très récemment par Le Monde, qui décrivait une situation que tout le monde avait décrite et racontée dans la presse indépendante, celle qui travaille, que ça soit Mediapart, Reporter, voilà, ou Blast. Je veux dire, donc, ils n'ont rien apporté de nouveau, mais ils ont réécrit ce que tout le monde avait réécrit. Donc, quelque part, ils venaient confirmer toutes les informations que nous, dans la presse indépendante, on a déjà publiées. Tous. Ils le font 3 ans plus tard. Donc, ils lui donnent une légitimité. Mais même ça, je pense que dans les ministères, peut-être qu'ils lèvent un petit sourcil en disant ouais, je vais appeler le préfet pour savoir ce qui se passe, quoi. Et puis bon, voilà, le cirque reprend, fait un rapport qui, bon, truc machin bidule, et les informations réelles ne remontent jamais.
Bien, ça c'est dit. Alors, on va faire le point sur une dernière chose que tu cites dans ton article excellent sur Blast, avec des extraits sonores de Bruno Le Maire. Ah non, mais c'est prodigieux. C'est alors que je retrouve la page. C'est le réseau brut agricole.
Oui, le réseau. Alors, ça, c'est une spécificité de la Guadeloupe.
Voilà.
Alors, pour bien comprendre, il faut avoir la géographie en tête de la Guadeloupe. Donc, la Guadeloupe, c'est une île un peu en forme de papillon, comme on dit généralement. La Soufrière, donc, est sur la partie ouest, ce qu'on appelle Basse-Terre. L'essentiel, les grandes plaines agricoles sont sur la partie est, donc Grande Terre. Et là où il y a l'eau, c'est sur la Soufrière, donc Basse-Terre. Là où il n'y a pas d'eau, mais il y a des besoins pour l'irrigation agricole, c'est Grande Terre. Pour faire schématique, sachant que en fait c'est un peu plus compliqué que ça, mais les bananeraies étaient sur les pentes de la Soufrière. Et bon, voilà, il y a aussi de la canne à sucre là-bas. Mais bon, schématiquement c'est ça. Et donc depuis les années, ça a surtout été développé à partir du milieu des années 80. Le conseil départemental, et donc avant lui le conseil général de Guadeloupe, a développé un réseau qu'on appelle réseau d'eau brute agricole, dont le principal le rôle est de fournir en eau les agriculteurs de grandes terres, notamment pour l'alimentation, l'irrigation, en période de carême, donc en période sèche, qui va de, en fonction des années, mi-novembre, début décembre, jusqu'à la fin du mois de mai, début juin, quoi. En gros, c'est à peu près ça, pendant ces 6 mois, où il y a très peu d'eau qui tombe du ciel, il y a besoin de ce réseau d'eau brute agricole pour pouvoir aider les agriculteurs à irriguer leurs terres. Ce réseau a été vraiment développé de façon constante, et même y compris quand il y a eu des changements de majorité au sein du conseil départemental, jusqu'à aujourd'hui. Depuis 2010, il est opéré par une filiale, la filiale locale de Suez, enfin, dont le contrat, enfin, on va y venir, et plutôt dans de bonnes conditions, puisque le taux de fuite doit être autour de 3%, ce qui est rien, quoi. Mmh. Mais c'est un réseau très moderne. Des grandes retenues d'eau ont été, des barrages ont été construits sur basse terre, essentiellement, et ça fonctionne très bien. Depuis qu'il y a la crise de l'eau potable en Guadeloupe, et donc à partir de la fin des années 2010, à la fin des années 2000, pardon, il y a un certain nombre de communes qui ont construit des usines de potabilisation d'eau et qui se sont branchés sur ce réseau d'eau brute agricole pour s'alimenter en eau quand le grand réseau, le grand syndicat de l'eau potable n'arrivait plus à les fournir ou quand ils ont voulu le quitter. Donc il y a déjà eu un premier détournement, et en fait on voit, nous, c'est ce qu'on raconte dans le livre, en fait c'est pas un détournement de la fonction de ce réseau d'eau brute agricole, mais que dans les années 2000, ils étaient comme l'équipe qui dirigeait le conseil départemental, c'était un de ces CID qui dirigeait le syndicat de l'eau, ils étaient parfaitement conscients que le réseau d'eau était en train de s'effondrer, et donc pour plutôt que de réinvestir ou de mettre quelqu'un de compétent et de non corrompus à la tête du réseau d'eau, ils ont préféré développer le réseau d'eau brute agricole en disant, le jour où le réseau d'eau potable se sera totalement effondré, nous, on aura le substitut, on pourra le remplacer. Et donc, c'est le plan que m'a expliqué le vice-président du conseil départemental que j'ai rencontré, qui est un homme très bien, le maire de Goya, Ferdi Luisi, qui compte mettre en place, c'est-à-dire que lui, maintenant, veut construire des usines de potabilisation de l'eau au pied des retenues des barrages qui sont opérés par le conseil départemental pour le réseau d'eau brute agricole, pour aller ensuite fournir directement les populations en eau potable. Donc on voit bien qu'on commence à pivoter et à donner un autre rôle. Le simple problème, c'est que donc il y avait un opérateur privé de ce réseau d'eau qui était Suez, la filiale locale de Suez qui s'appelle Carucuero. Son contrat de délégation de service public a été prolongé en juin 2023, donc il y a 11 jours, 12 ouais. jours, et il n'a pas été renouvelé. L'appel d'offres pour renouveler la délégation de service public a échoué parce que Suez était le seul candidat, mais ne répondait pas à tous les critères de l'appel d'offres. Et donc aujourd'hui, on rentre dans une période d'incertitude, y compris pour le réseau d'eau brute agricole. C'est que tous les projets sont maintenant gelés parce qu'il n'y a plus d'opérateurs. Et le conseil départemental, les services du conseil départemental qui gèrent ce réseau, enfin qui gérait le contrat, il doit y avoir 3-4 personnes, 5 personnes peut-être un technicien, mais pas plus, et donc n'a pas les compétences pour récupérer la gestion directe du réseau. Et donc on rentre dans une grande période d'incertitude qui fait qu'il n'y a plus d'opérateurs pour le réseau d'eau brute agricole, alors que c'était le seul réseau qui fonctionnait, hein. Et donc, avec, en plus, bon, y a des problèmes qui sont posés, parce que le réseau d'eau brute agricole a lui été aussi touché par la tempête Fiona, tous les dégâts n'ont pas été réparés, donc il y a des choses urgentes à faire pour le remettre en état. Et c'était une véritable alternative, ou en tout cas ça pouvait soulager une partie du problème de la crise d'eau potable. Là on rentre dans l'année qui vient, parce que bon, il y a un processus d'appel d'offres, un nouvel appel d'offres qui va être relancé, mais il y en a pour un an quasiment de processus. Donc dans l'année qui vient, c'est l'inconnu. Et c'est vrai que pour les Guadeloupéens, c'est une période d'incertitude qui commence et qui aggrave les difficultés, les inquiétudes de la population locale.
Ils n'avaient pas besoin de ça.
Non, ils n'avaient pas besoin de ça.
Oh là là, bien. Donc, pour lire la totalité de ton article, il faut aller sur le site de Blast. Tu
Tout
rappelles l'adresse ?
Alors, c'est blast-, donc trait d'union en fait, info.fr. Et c'est facilement, il suffit de taper mon nom pour retrouver les enquêtes que j'ai publiées sur le site.
Ou taper Guadeloupe tout simplement et on tombe sur tout le dossier Guadeloupe.
Et, exactement. Et je tenais à préciser, si tu me le permets, que oui. Blast est un site d'information gratuit avec une chaîne YouTube et qu'elle est financée uniquement volontairement par nos lecteurs. Donc si vous pouvez aussi participer au financement de Blast, il y a différentes solutions, ça serait super, et pour aider la presse indépendante à se développer et à faire le travail que les autres médias mainstream et officiels ne font plus depuis trop longtemps.
Voilà, un appel pour un don sur un média de tiers secteur, comme je l'avais expliqué dans ma dernière émission avec Pauline Perrenot, d'Acrimed. Donc, voilà. Donc, nous allons faire une pause et nous allons revenir sur l'actualité, ton actualité, Thierry.
Ok.
payer ta pire ton mal. Tu masques ton visage en lisant ton journal. Tu marches la rambo dans les couloirs du métro. Les gens ne te touchent pas pour faire le premier pas. Tu voudrais dialoguer sans renvoyer la balle. Impossible d'avancer sans ton gilet pare-balles. Tu voudrais donner des yeux à la justice. Impossible de violer cette appelée de vice. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Repense à toutes ces années de service. Antisocial, perdons les années de sévice. Enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus. Qu'on ne rattrape plus. Qu'on ne rattrape plus. Qu'on ne rattrape plus.
Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire 89.4 FM en région parisienne et sur le net pour le reste du monde. Nous sommes dans la dernière partie de notre émission avec Thierry Gadeau. Alors Thierry, donc tu as rappelé que Blast, toi ton enquête sur la Guadeloupe, l'île sans eau, était sur Blast, qu'on peut financer Blast et ça aide la presse indépendante, mais on peut financer toutes sortes de médias indépendant. Ça va de Off Investigation à Blast, en passant par Mediapart, enfin tout le monde.
Et évidemment, Reporter, Bastamag, Politis,
tout le monde.
Tout le monde, évidemment, y compris en région, il y a aussi des sites d'information
oui,
qui font un vrai travail.
Mars Actu.
Mars Actu, notamment, qui font un vrai travail de journaliste. Il y a aussi Mediacité, évidemment.
Oui. Bondiblog.
Exactement. Donc voilà, il faut soutenir cette presse qui travaille sérieusement. Et qui essaye de sortir des vraies informations.
Alors, pour vraies informations, il n'y a pas que sur la Guadeloupe que tu écris. Tu as écrit un éditorial sur la mort de Naël. Et j'aimerais que tu expliques pourquoi.
Il se trouve, d'où la musique qui est passée juste avant,
que j'ai choisi.
Donc Naël, c'est ce jeune de 17 ans qui faisait le kéké à bord d'une voiture d'un bolide, qui a été arrêté par des policiers et qui a été assassiné par l'un de ces policiers à Nanterre, et ce qui a provoqué la dernière explosion sociale dans les banlieues, à commencer par Nanterre. Il se trouve que le quartier où vivait Naël, moi j'y ai vécu de 1976 à 1990. Et quand j'ai lu la presse, et notamment Le Monde, mais j'ai vu aussi des trucs ahurissants sur France Info TV, j'ai été pris de colère parce que mes confrères de la presse, des médias mainstream, ont raconté n'importe quoi, évidemment. Alors, je connais d'autant mieux ce quartier que moi, l'un de mes oncles est l'un des architectes de ce quartier. Donc je sais exactement comment il a été constitué et comment ce ghetto qui s'appelle les Touraillots, ces tours rondes qui sont juste derrière la Défense, appelées faussement tours nuages, pourquoi elles ont été construites et pourquoi on y a enfermé les populations les plus fragiles du département. Et donc c'est ce que je raconte dans cet édito parce que ça m'a tellement chauffé que je me suis dit je peux pas ne rien dire de cette situation. Je voulais pas m'en mêler, je voulais pas faire de reportage sur Nanterre parce que bon voilà, il se trouve que j'ai toujours de la famille qui habite Nanterre, j'ai même la compagne d'un de mes cousins qui est adjointe au maire, donc je suis dans une position, je peux plus être totalement journaliste. Et puis on a un espace d'éditorial sur Blaise qui s'appelle Au Royaume des Aveugles. Et donc j'ai écrit un papier, je l'ai envoyé à Denis et à Soumaya, la rédactrice en chef. Ils l'ont trouvé qu'il était très bien et qu'il pouvait être publié. Il a été publié cet après-midi. Et donc je raconte comment cette situation explose, enfin, comment on a créé politiquement, pour des raisons politiques, cette situation explosive. On le sait depuis le départ que ça va exploser. On ne savait pas quand, ni comment, ni pourquoi ça exploserait, mais il était évident qu'un jour ou l'autre, ça exploserait. Donc voilà, ça a explosé et que... on peut juste penser que tout ça à cause d'un connard de flic qui a tué un jeune de 17 ans.
Bien. Donc vous pouvez lire l'éditorial de Thierry sur le site de Blast. Alors, ceci étant dit...
Oui, j'ai une autre enquête qui est publiée ce soir sur Blast.
Voilà, et j'aimerais que tu en parles parce que qui d'entre nous n'a pas eu affaire à l'organisme dont tu parles et qui n'aura pas affaire un jour peut-être à cet organisme et politiquement, il est sous les feux de l'actualité depuis hier, donc je te laisse la parole.
En fait, depuis plusieurs mois, c'est l'une de mes grosses enquêtes depuis un an d'ailleurs, en fait. Je travaille sur une enquête approfondie sur la privatisation souterraine de Pôle emploi. Donc Pôle emploi, ex-ANPE fusionné avec les ACEDIC en 2008 par Sarkozy, et qui progressivement se vide de sa substance, parce que de plus en plus, le travail que font les agents de Pôle emploi, les conseillers emploi, est transféré à des sociétés privées, des prestataires privés, qui sont renouvelés plus ou moins régulièrement. Et il y a un an, j'ai été contacté par un salarié d'une de ces sociétés privées, qui manifestement est aussi un lecteur de Blast. Il appréciait les enquêtes de Blast qu'on publiait sur Blast, et apparemment aussi un peu mon travail, puisque c'est vers moi qu'il s'est tourné.
Oui,
et en voulant me raconter ce qui était en train de se produire dans sa société et les liens avec le pouvoir macroniste. Alors au début, quand il m'a donné ces éléments, j'y ai pas cru. Évidemment, donc ça, je me dis c'est tellement énorme que c'est pas possible. Et puis en enquêtant, en creusant, etc., je me suis rendu compte que, et puis j'ai les documents qui le prouvent maintenant, que effectivement cette privatisation. Alors depuis que Macron a été élu président de la République en 2017, il a mis en œuvre différentes réformes de Pôle du marché du travail en général, des allocations chômage, de Pôle emploi, et donc la dernière partie de ces mesures, c'est ce qui est débattu, un projet de loi qu'on appelle projet de loi plein emploi, qui est débattu au Sénat actuellement et puis ensuite qui partira à l'Assemblée nationale. Et donc l'objectif, c'est de transformer l'ANPE dans Pôle emploi dans une nouvelle structure qui va s'appeler France Travail, et dans lequel l'obligation de s'inscrire donc dans cette nouvelle structure pour tous les publics, y compris ceux qui sont pas forcément en recherche d'emploi, mais je pense au RSA, aux attributaires du RSA. Aujourd'hui, il y a que 40% des gens qui sont sous RSA qui sont inscrits à Pôle emploi. Ils sont plus de 4 millions, donc ça veut dire qu'il y a près de 2,5 millions de personnes qui vont s'inscrire, alors qu'il y a déjà, ça veut dire, une augmentation de 50% des effectifs inscrits à Pôle emploi. France Travail, donc la nouvelle structure, les travailleurs ou les personnes en situation de handicap qui devront aussi s'inscrire, devront signer des engagements, un plan d'engagement. S'ils ne respectent pas, leurs indemnités seront supprimées provisoirement ou diminuées. Donc on voit bien que c'est un plan qui est fait pour chasser ces salauds qui ne veulent pas travailler. Donc c'est un projet totalement libéral. Et évidemment, vu la masse de nouvelles personnes qui vont s'inscrire, Pôle emploi ne va pas voir ses effectifs augmenter de 50%, ils vont continuer à baisser plutôt ou à se réduire. Et en fait, c'est ce volume d'activité supplémentaire de Pôle emploi, rebaptisé France Travail, va être transféré à ces sociétés privées. Bon. Parmi les acteurs, il y a un acteur depuis maintenant 3 ans qui est devenu le principal prestataire privé de Pôle emploi, qui est un petit groupe qui est basé à Saint-Quentin dans l'Aisne, qui s'appelle Axis. Axis est le fauné, en fait, d'une structure beaucoup plus grosse. Certains de nos auditeurs peuvent peut-être connaître de nom parce qu'ils ont des engagements syndicaux et qu'ils ont pu faire affaire avec cette structure. Ça s'appelle le groupe CECAFI Alpha. CECAFI étant l'un des principaux bureaux d'expertise comptable, d'audit et de conseil auprès des comités d'entreprise. Et le principal actionnaire et dirigeant de CECAFI Alpha, c'est un homme qui s'appelle Pierre Ferracci, qui est par ailleurs aussi le copropriétaire et le président du Paris Football Club, qui est le deuxième club de football de la capitale qui joue actuellement en Ligue 2. Pierre Ferracci, il a un fils, il a même deux fils, mais il en a un particulièrement qui s'appelle Marc Ferracci. Qui est Marc Ferracci ? Marc Ferracci est un économiste spécialisé sur l'organisation du marché du travail, et qui est un ami intime d'Emmanuel Macron. Et en fait, toutes les réformes...
J'aimerais que tu précises à quel point il est intime d'Emmanuel Macron, parce que quand tu me l'as précisé, je suis tombé de ma chaise.
Ils se sont rencontrés quand ils ont fait leurs études à Sciences Po Paris, et ils sont devenus les meilleurs amis, mais vraiment les vrais amis intimes. Emmanuel Macron a été le témoin de mariage de Marc quand il s'est marié, et Marc a été le témoin de mariage d'Emmanuel quand il s'est marié avec Brigitte.
Voilà.
Ces témoins de mariage, alors moi j'ai jamais été marié, donc j'ai jamais eu de témoin, mais je sais qui j'aurais choisi si j'avais décidé de me marier. C'est des amis intimes. C'est personne d'autre. C'est des gens avec qui on a une confiance totale, qui savent exactement qui on est, ce qu'on pense, etc. Et c'est réciproque. En fait, Marc Ferracci a construit, a piloté, a surveillé les réformes du marché de l'emploi, de l'ANP, de Pôle emploi et de la transformation en France Travail que met en œuvre le gouvernement, le Macron, depuis qu'il est au pouvoir en 2017. Il a été conseiller ministériel, il est maintenant député. C'est un conflit d'intérêts majeur et ça va au-delà. Parce que c'est l'une des révélations qu'on fait dans l'article. Marc Ferracci est l'un des actionnaires de CECAFI Alpha, indirectement, puisqu'il est actionnaire de la société holding familiale qui porte les intérêts dans le groupe CECAFI Alpha. Et donc va être l'un des bénéficiaires des réformes qu'il fait passer aujourd'hui et du démantèlement des politiques sociales, des politiques d'emploi et de la création de cette grosse structure qui n'a qu'un seul but, c'est transférer de l'activité aux sous-traitants privés, à commencer par le groupe Axis CECAFI Alpha, puisqu'ils sont partenaires en fait dans une structure unique qui travaille pour le compte de Pôle emploi. Donc c'est une affaire majeure. Alors ça va étonner personne parce que des scandales, il y en a eu tellement avec Macron qu'on les compte même plus. La plus grosse affaire étant l'affaire d'Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée. Mais c'est là, ça dépasse tout entendement, quoi.
Ça dépasse tout entendement, sachant qu'on va obliger des pauvres gens, c'est des salons de pauvres quelque part.
Exactement.
À rentrer dans une structure France Travail, malgré eux, pour mieux les contrôler, pour mieux les tabasser, et pour mieux leur piquer leur fric, auquel ils ont droit.
Oui.
J'ai tout résumé.
Faut pas oublier. Alors, on a eu ce tournant néolibéral avec Sarkozy. Il y avait eu un vrai tournant dans l'aggravation de ces politiques de destruction de l'État avec Sarkozy. Ça a été poursuivi par François Hollande, qui pense toujours être un homme de gauche. Et ouais, moi, je suis le pape aussi, si on va par là. Et Macron, on a franchi encore une étape supplémentaire parce que à la destruction de l'État et au transfert de l'argent public qui finançait avant les services publics vers des sociétés privées, il a rajouté une couche supplémentaire, c'est permettre aux riches de toujours plus s'enrichir. Donc lui est vraiment, moi, c'est, pour
le
moi, c'est un...
Le président des ultra-riches, comme ils disent, Monique et Pinson.
C'est un vrai libertarien, il a franchi un cap, c'est-à-dire c'est la copie française, plus comme il est dans la fake news en permanence, c'est la copie française, la copie éduquée, policée, entre guillemets, parce que ses petites réflexions et ses petites phrases sont absolument ignobles, mais la copie policée de Trump, de ce qu'était Trump aux États-Unis, c'est ça, c'est détruire l'État, transférer tout l'argent possible vers des intérêts privés et laisser les riches s'enrichir au-delà de l'entendement. Voilà, donc c'est ça sa politique, et y compris en permettant à ses copains de s'enrichir en mettant en place les outils pour le faire. Donc c'est ça l'histoire de Pôle emploi, de France Travail. Voilà, ça n'a pas d'autre but.
Alors, Thierry, je connais ton travail... Avant même qu'on se connaisse.
Oui.
Puisque quand,
merci.
Je rappelle la genèse de notre rencontre, quand il a fallu que je fasse une émission sur le fait que le directeur financier de EDF claquait la porte, M. Piquet-Mal, pour aller à la Commerzbank, entre parenthèses, bon.
Oui.
Il n'est pas allé à Greenpeace, il est allé à la Commerzbank, bon. Pourquoi pas. Je t'ai demandé de venir... Parce que tu es le meilleur spécialiste d'EDF.
Merci.
Et de l'énergie, et des problèmes de l'énergie. Donc, je voudrais comprendre, alors que Marc Ferracci est député la France...
La République en Marche.
La République en Marche, pardon.
Oui,
la
pas
République.
France Insoumise.
Oui, pardon. Je suis tellement émue par toutes ces révélations, parce que j'ai eu la primeur de l'article cet après-midi.
Donc il est en ligne ce soir sur le site de Blast.
Donc connectez-vous, c'est tous ceux qui sont inscrits à Pôle emploi et qui voient arriver avec terreur la transformation en France Travail, vont voir à quelle sauce ils vont être mangés. Tout est décrit dedans. Et il faut l'imprimer et le faire circuler, je vous en prie. Il faut organiser la résistance dès à présent, et grâce à Thierry Cadeau. Thierry, je voudrais comprendre, comment se fait-il que cet homme qui est sur la place publique, dont la déclaration d'intérêt privé est inscrite à la haute autorité
pour la transparence de la vie publique, oui.
Comment se fait-il qu'on n'en ait jamais parlé?
Ben, c'est ça qui m'a étonné, parce que... Alors, c'est vrai que ça demande un peu de travail. Il faut aller fouiller dans l'histoire, c'est qui Axis, c'est qui Cafi Alpha, quels sont leurs liens, où sont les liens, est-ce que c'est un simple partenariat, est-ce que c'est autre chose. Donc c'est autre chose. Et je vous laisse lire l'article, parce que je ne vais pas non plus tout vous dévoiler. D'où remontent ses connaissances, etc. Donc voilà, qui est Pierre Ferracci, le rôle particulier qu'il a dans le social en France, comment il tient la CGT, pourquoi il tient la CGT. Donc je vous laisse découvrir tout ça. Mais évidemment, moi je me suis... Et c'est ça qui est fou, c'est que plus j'avançais dans mon enquête, plus je me disais, mais c'est tellement évident, ce conflit d'intérêts majeur, que normalement, quand Marc Ferracci a été nommé conseiller de la ministre du Travail en 2017, pour s'occuper des réformes du marché de l'emploi, tous mes confrères qui s'occupent
de social
auraient dû immédiatement souligner ce conflit d'intérêts majeur. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Et alors, on peut me dire, mais pourquoi tu t'en es pas intéressé avant? Moi, j'ai jamais enquêté sur le social, donc c'est vrai qu'à l'époque, j'en avais rien à faire, j'ai pas fait attention. On peut me le reprocher, je le prends pour moi, il n'y a pas de problème. Mais des gens dont c'est le métier, qui savent exactement qui est Marc Ferracci, qui est Pierre Ferracci, qui connaissent les relations avec Macron, à aucun moment ils se sont posés, mais toutes ces réformes-là, ça a un but idéologique, ok, mais c'est quand même gênant. Papa, il est au milieu. Il en bénéficie quelque part. Est-ce qu'il n'y aurait pas un risque de conflit d'intérêts? Ben, sans parler de conflit d'intérêts avéré, comme moi je le fais. Donc toutes ces questions-là, la presse, spécialisée ou généraliste, aurait dû s'en emparer. Au contraire, tout le monde a fait des papiers, des portraits dithyrambiques sur les Ferracci, sans raconter la vraie histoire, évidemment. Et donc, ce que je disais, c'est le principe de la lettre volée. Le scandale était évident sous les yeux de tout le monde et personne ne l'a vu.
Alors, dans le même ordre d'idées, on peut dire que c'était la même chose pour Jean-Paul Delevoye. Jean-Paul Delevoye, qui est nommé haut commissaire aux retraites, il a ses déclarations à l'autorité de la transparence. Je n'y arriverai jamais à la haute
autorité pour la transparence de la vie publique.
On va y arriver. Jusqu'à ce que des gens qui luttent contre la France-Afrique, et moi en particulier, pointent le fait que son conflit d'intérêt majeur, c'est d'appartenir à la fondation Brazzaville, une fondation gérée sur les deniers de Sassou Nguesso. Quand on sait en France-Afrique qui est Sassou Nguesso, on part en courant, et gérée par un homme un peu plus sulfureux, qui est Jean-Yves Olivier. Je veux dire, jusqu'à ce qu'il y ait l'article majeur de Laurent Mauduit et de Karl Lasquet, personne n'osait en parler de ce 11e oubli. D'ailleurs, le titre, c'est le 11e oubli du commissaire.
Oui. mais voilà, il y a des choses parfois qui sont évidentes et qui nous échappent. Alors, dans la presse, la vraie presse, celle qui travaille, on ne peut pas tout savoir et tout traiter toujours, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a des infos qui peuvent nous échapper. Il n'y a pas de mauvaises intentions derrière ou des intérêts cachés, etc.
Mais par contre, il y a des lanceurs d'alerte.
C'est bien pour ça que nos sources sont précieuses et qu'il faut les chérir.
Ouais.
Parce qu'au moins, elles nous alertent sur des choses. Si on les a pas vues, elles peuvent nous alerter. Et il y a tous les moyens pour nous contacter discrètement et en toute sécurité. Mais pour la presse, nous, dans la presse qui travaille, comme j'ai l'habitude de dire, la presse indépendante, on n'est pas très nombreux. On a toutes des grosses enquêtes à réaliser, donc on ne peut pas tout faire. Ça, c'est clair, on n'est pas assez nombreux, c'est pour ça qu'il faut continuer à nous financer tous. Mais dans la presse mainstream, je parle du Monde, je parle de Libération, je parle des Échos, je parle des Hebdo, mais pourquoi personne n'a fait ce travail ? Déjà, ils ne foutent pas grand-chose, généralement. Et quand ils écrivent des papiers, notamment sur l'affaire Nel, ils racontent n'importe quoi. Mais au moins, ils pourraient s'intéresser aux sujets qu'ils ont l'habitude de traiter, quoi. Et se réveiller un peu. Donc, voilà, ce n'est pas être grossier que de dire que Marc Ferracci et Papa Ferracci et Pierre Ferracci, ils ont un conflit d'intérêt majeur sur toutes ces réformes, quand même. Et que c'est en train d'enrichir Papa. Bah si. Apparemment, il ne faut pas le dire, donc je ne sais pas. Ou ils ne veulent pas traiter les choses qui dérangent le pouvoir. C'est peut-être aussi une autre explication, compte tenu de l'identité de leur actionnaire.
Merci. Ça, au moins, c'est dit. Alors, on rappelle que tu, Thierry Gadeau, invité de l'émission Pas de quartier sur Radio Libertaire, 89.4 FM. On a parlé de la Guadeloupe dans les deux premières parties, mais là, il était important de te laisser le temps de parler de cette affaire parce qu'elle nous impacte au quotidien et ça va être le prochain scandale. Et je souhaite que ce soit le premier prochain scandale et que Blast soit à l'origine du scoop. Et je te remercie de me l'avoir réservé.
Alors, je te dois bien ça, vu le nombre de fois où tu m'as invité pour parler de mes enquêtes, alors que personne n'en parle chez mes confrères. Et tout le monde fait, l'AFP fait en sorte que les enquêtes que nous pouvons sortir les uns ou les autres, on n'en parle jamais en n'en parlant pas et en reprenant pas nos informations. Donc c'était normal que je t'alerte sur cette enquête qui va être publiée
ce soir.
Qui est peut-être déjà en ligne, puisque maintenant ça fait quasiment une heure et demie qu'on est enfermé dans le studio, donc je ne sais pas si elle est déjà en ligne ou pas,
oui.
Mais c'est imminent. Et voilà, parce que je pense que c'est une affaire énorme qui touche un intime du président, donc qui touche le président indirectement. Et que j'espère que mes confrères ou certains de mes confrères reprendront les informations, les développeront peut-être. Il y a certainement et forcément des éléments à côté desquels je suis passé et que on poursuivra cette enquête qui met en cause quand même la République.
Oui.
Et qui met en cause les trucs aussi simples que les droits des chômeurs, des précaires, des personnes handicapées, des gens qui sont au RSA parce qu'ils connaissent des difficultés longues ou temporaires. Et voilà, donc ce gouvernement a fait trop de saloperies, et à un moment, il faut dire stop, quoi.
Bien. Alors, pour ceux qui chercheraient des informations sur un autre intime de M. Macron, Alexis Kohler, je rappelle que j'avais reçu le rédacteur en chef et propriétaire, et fondateur, pardon, de Off Investigation, pour... et qu'il avait lancé sur le site de Blast le premier chapitre de ces 9 épisodes.
Tout à fait.
Emmanuel Macron, un homme d'affaires, est-ce à l'Élysée ? Et l'affaire Kohler était très bien documentée. J'ai une préférence pour l'affaire de son trust, parce que je suis spécialisée sur les paradis fiscaux. Donc de penser qu'il est propriétaire d'un trust et qu'il ne l'a jamais déclaré, ça m'interpelle. Et ça me fait sourire.
Oui.
Jaune.
Oui.
Bien sûr. Bien, je rappelle l'adresse du site internet de Blast, c'est blast-info.fr. Et l'article sur les Firacci père et fils doit être en ligne depuis un petit moment, ou elle devrait ne pas tarder. Voilà. Et sinon, pour la Guadeloupe, vous tapez Thierry Gadeau dans le moteur de recherche et vous tapez Guadeloupe à côté, vous avez tout le dossier sur la Guadeloupe et vous êtes les mieux informés sur ce qui se passe dans l'île et dans les Outre-mer, puisqu'on reçoit pour le 14 juillet les Outre-mer, paraît-il.
Ce que je peux dire, c'est que d'ici la rentrée ou à la rentrée, il y aura d'autres enquêtes qui seront publiées sur la Guadeloupe et aussi sur la Martinique, parce que j'ai aussi commencé à enquêter activement sur ce qui se passait en Martinique.
Merci Thierry. Alors, je remercie Ken Dong et Nicolas pour la technique. Je remercie mon groupe, le groupe Louise Michel, qui me permet tous les 15 jours de vous faire une émission. Je vous rappelle que vous étiez sur Radio Libertaire 89.4 FM en région parisienne et sur le net pour le reste du monde. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien et faites attention à vous.
La rage. La rage. Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, sur vos roues j'ai perdu mes dents, sur vos roues j'ai vu la fête, le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins, le vent, j'ai dessiné en mille facettes, un cœur rouge, il y aurait d'un gain, sans oublier rue de Lafayette, ils vous diront, il faut avoir un grain, sur les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite, je n'ai jamais dit que j'étais sain, je conduisais une camionnette, sincèrement j'ignorais le tas, cela peut arriver aux prophètes, Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, ou moi cassez les lunettes, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, avant que je perds la tête. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de me péter le futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Et moi je joue le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à la marche ou crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qu'à laisser ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes toutes les Villeneuves. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musil aura jamais de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, l'OTAN d'Hitler, mon père, il a défendu la source et les artères. Dans les tenues de son fils numéro 1. Mais j'excuse les lésés si j'ai plus de freins. Si je laisse le moisi à Dieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de les mains. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de me péter futur, l'angoisse pour de la preuve. La rage. Je vous fais serment devant le juge, tu juges, ce qui m'ont jugé, tel qu'un maghrébin. J'étais blessé chez mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour, j'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, ça j'ai dit gamin. Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie des câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés, j'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'Anan m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui, c'est vrai qu'Anan, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, l'angoisse vous de la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, l'angoisse vous de la preuve.